Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Yara Elgadban, éditrice chez Mémoire d'Encrier, romancière et auteure palestinienne. Bonjour Yara.
Bonjour Émilie.
Ça fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous. J'allais dire, normalement, à l'émission, on parle beaucoup de la critique des médias et tout ça, mais en fait, aujourd'hui, on va faire à peu près tout sauf ça ensemble. On va parler des vraies choses derrière. J'ai très, très hâte de le faire avec toi. Bienvenue à Détour.
Tu dis racisme, je dis rêve. Tu dis ombre, je dis soleil. Ça ressemble à un jeu. Peut-être me diras-tu que c'est trop romantique. Pourtant, les jeunes qui marchent dans les rues pour manifester ne le font pas en silence. Au rythme de leurs pas, ils lancent dans le vent autant d'utopies que de reproches. Ce n'est pas un jeu que de revendiquer le rêve. Des rêves ont déplacé des populations entières. Le rêve d'une vie meilleure est souvent la seule chose qui survit à la traversée des mers et des frontières. Le rêve est une question de vie ou de mort. Je voudrais partager le sens de ces mots pour la réfugiée que je suis, l'arabe que je suis, la musulmane que je suis, la femme que je suis, l'immigrante que j'étais. Partager ce que ça veut dire de rêver quand tu entends « Ah, tu joues du piano ? Je ne savais pas que les pianos existaient dans les camps de réfugiés. » Rêver est un acte révolutionnaire. Nous pourrons peut-être parler du racisme sans le laisser prendre toute la place. Je voudrais défaire et refaire la parole commune, ces mots de tous les jours que l'on croit légers, même ordinaires, pour cultiver cet art de vivre que tu souhaiterais tant insuffler à la lutte contre le racisme. Un art de vivre qui préserve les utopies. Cet art de vivre, je l'ai appris dans la maison de ma grand-mère, au camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth. On luttait pour le pays perdu. On luttait contre la pauvreté et le mépris des autres qui ne voulaient pas de nous. On se défendait. Mais je n'ai vu que la beauté, l'amour et le bonheur dans ce camp si sombre aux yeux du monde. Aujourd'hui, je dis à mes filles, quand elles sont confrontées au racisme dans ce pays qui les a vues naître, gardez la beauté du monde en vous. Soyez obstinément heureuses. Le bonheur est une arme quand on veut vous voir triste. Marchez vers ce lieu où l'on ne vous attend pas. Luttez sans jamais perdre le soleil de vue. Me vient à l'esprit la rappeuse palestinienne Rafif Ziyadeh. À un journaliste qui, du haut de sa bienveillance, lui demande « Miss Ziyadeh, don't you think that everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children ?» Elle répond par un poème. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls after the last skies. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Alors je dis à mes filles, parlez de la vie quand vous êtes apostrophées sur la guerre. Parlez de musique quand les autres n'entendent que les cris des génocidaires. Gardez surtout le rêve, car comme disait le poète Mahmoud Darwish, nous souffrons d'une maladie incurable, l'espoir. Et désolée, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça.
Es-tu en train de t'excuser là en ce moment? C'est vrai, tu vraiment ça qui est en train de se passer?
Hey, je viens de me voir que j'avais écrit génocidaire, c'est grave. Hein?
Mm-hmm. Ça m'a un peu, c'est ça bon. Que tu as écrit. Hein?
Oui, j'ai écrit ça il y a 3 ans. Qui savait?
Yara, ce que tu viens de lire, c'est un extrait de Les racistes n'ont jamais vu la mer, un échange épistolaire, en fait, entre toi et René Saint-Éloi. Ensemble, vous parlez dans le livre de vos expériences de vie. C'est une manière très littéraire, artistique, poétique, humaine. Le mot que je vais employer, c'est humaine, de parler de vos expériences comparées du racisme. Mais l'extrait que tu viens de lire, je le trouve absolument puissant pour mettre le ton, en fait. Mettre le ton, notamment, de la conversation que j'ai envie d'avoir avec toi. Et aussi, je pense que c'est un rappel pour tout le monde qui suit l'actualité ces temps-ci. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va?
c'est drôle, hein, parce que c'est une question très compliquée ces jours-ci.
Mais oui, c'est
pour
ça.
Moi. Mm-hmm. Écoute, physiquement, ça va. J'ai pas de bombe qui me tombe sur la tête. Mm-hmm. Je ne meurs pas de froid, je ne meurs pas de faim. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça va pas parce que j'ai l'impression que je vis dans un temps parallèle. Mmh. Je suis ici, mais je ne suis pas vraiment ici. Je suis ailleurs, je suis à Gaza, je suis vraiment ailleurs. Parfois, je perds la notion du temps. Et j'ai réalisé récemment, je pense que je l'avais articulé à une amie, je ne savais même pas comment expliquer le sentiment, comment je me sentais, parce que dans une même journée, je pouvais travailler, être très productive, et 5 minutes plus tard, je me mets à pleurer, et 5 minutes plus tard, j'ai envie de crier, et 5 minutes plus tard, je m'assois et je travaille sur mon roman. Donc, c'est très étrange comme condition. Mm-hmm. Et j'ai réalisé après qu'il y avait un nom pour ça, et j'ai dit ça à mon ami, j'ai dit, je pense que je suis en deuil. C'est le seul mot qui me venait et qui semblait dire quelque chose qui ressemblait à ce que je ressens. Donc, je suis vraiment en deuil de toutes sortes de choses. En deuil de mon peuple, d'un certain nombre de rêves, d'un certain nombre d'illusions. Et c'est très étrange d'être en deuil envers des gens qui sont très loin de vous, mais qui sont très, très proches aussi. Donc, c'est ça. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être le mot qui dit le mieux comment ça va.
Mm. Parce que dans l'extrait qu'on vient de lire, qui était écrit il y a 3 ans, le thème, c'était justement le rêve.
Oui.
Puis maintenant, tu parles de deuil, de, notamment de certains rêves. Il en reste quand même ou?
Oui. Heureusement, je suis têtue. je suis vraiment très obstinée et je pense que le côté rêveur, c'est un côté existentiel pour moi. Je ne sais pas comment être autrement. C'est ça qui me permet d'écrire, mais il faut dire que il faut travailler très, très, très fort pour maintenir ça ces jours-ci. Et parfois, c'est plus difficile que d'autres. Et parfois, ça devient justement comme dans le livre, c'est une façon de résister aussi. Donc, j'ai écrit récemment un texte justement pour un livre au Maroc et sur la Palestine. Et j'avais fini le texte par une phrase en disant « Face à leur dystopie, il faut qu'on remplisse le monde de nos utopies ». Donc, c'est quasiment par défi ces jours-ci. Mais oui, c'est vraiment par défi. C'est peut-être même une façon un peu... Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais je sais que ça me permet de continuer. Et c'est un peu pour défier le destin qu'on nous réserve. Donc, on peut tout prendre, et c'est ça que nous avions tous les deux écrit, Rodney et moi, dans Les racistes n'ont jamais vu l'affaire. On peut tout nous enlever. Tout. Et ça, et on le voit. Vraiment, jusqu'à notre humanité, notre chair, tout. Mais on ne peut pas nous enlever nos rêves. Donc, ça, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Et ça appartient entièrement à moi. Donc, je les cultive malgré tout, même si parfois ça sombre, ça descend, ça remonte. Mais si j'accroche à quelque chose, c'est ça.
En fait, ça fait du bien de t'entendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je vois beaucoup de gens sur les médias sociaux ou dans ma vie autour de moi qui... sans que les gens vont pas bien, en fait. Sans que les gens sont pas bien. Puis dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, même quand on sombre, c'est que on est en mouvement, en fait. Il y a pas de stabilité nécessairement, mais c'est pas parce qu'on atteint ces moments-là de noirceur que la lumière arrête d'exister. Mais j'ai l'impression qu'on vit souvent dans une société où on pense que si on va dans la noirceur, on fait cesser d'exister la lumière. Donc, les gens sont dans des fois, les gens portent des masques, sont dans des fausses joies qui leur empêchent d'avoir accès à leur empathie, d'avoir accès à leur tristesse, d'avoir accès à la compassion. Alors que ce que tu dis, en fait, c'est que il y a comme tout un éventail d'émotions à laquelle il faut avoir accès en même temps, en fait.
Oui, et en fait, ça nous traverse, ça me traverse. C'est des courants contraires qui me traversent et je ne peux que les recevoir. C'est-à-dire que je peux encore rire, je peux blaguer, quand je suis dans un manuscrit, ça m'apaise, ça m'apporte de la joie. Quand je travaille sur le roman, je me sens moins inutile, moins impuissante. J'ai l'impression de faire quelque chose, même si je ne sais pas quelle est sa portée, mais au moins je fais quelque chose, je ne suis pas qu'en train de subir tous les jours la violence. Mais il faut savoir qu'il y a de l'ombre, il y a de la lumière, et les rêves sont chers payés, sont vraiment chers payés, et c'est ça que je réalise, c'est ça que je constate, que rêver quand on est palestinien, ça coûte très 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 cher. Donc voilà, il faut avancer malgré ça, parce que l'alternative est pour moi impossible à imaginer. C'est-à-dire que les gens me disent « Ah, mais comment tu fais pour être optimiste ?» Je dis « Mais j'ai pas le choix. » C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux que je fasse à part ça ? Parce qu'on est vraiment au fin fond de l'inhumanité. Alors, qu'est-ce que je peux faire à part espérer que quelque chose va changer à un moment donné, parce que sinon, après ça, tout ce qui m'attend, c'est la mort. Et je refuse ça. Je vais pas donner la satisfaction aux gens de nous voir mourir comme peuple. Non, il faut être vraiment têtu. il faut dire non. C'est non et non. Dites ce que vous voulez, mais non. Vous voulez être moins qu'humain, ben c'est votre choix. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. J'ai pas ce luxe-là.
Tu es écrivaine, tu es anthropologue aussi de formation, ethnomusicologue, on le disait dans l'extrait, tu es pianiste. Tu es née à Dubaï, dans une famille qui était déjà exilée de la Palestine. Tu as vécu en Argentine, à Beyrouth, à Sanaa, à Londres, en Afrique du Sud, à Montréal. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Au Yémen même, je pense.
Oui, au Yémen.
Comment est-ce que ce parcours de vie-là, c'est à la fois, je veux dire, c'est du nomadisme un peu forcé dans bien des cas, mais c'est une existence nomade. Qu'est-ce qui, là-dedans, fait la personne que tu es aujourd'hui, le regard que tu as sur la condition humaine aujourd'hui?
Mais tu sais, hein, le pire, c'est que mon parcours n'est même pas le plus compliqué.
Ah ouais,
j'ai des amis palestiniens, ils me racontent « Oh là là! oh non, j'ai des amis palestiniens là, ils peuvent ajouter au moins 5 autres pays à cette histoire.
Ah ouais, hein.
Oui, parce que bon, après 75 ans de diaspora, les parcours deviennent très 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 complexes. Dans mon cas, et je ne sais pas si c'est quelque chose, j'ai très peur de donner des traits de caractère à toute une collectivité, parce que je trouve que c'est vraiment un piège. Je ne pense pas qu'il y a des peuples qui ont des dons que d'autres n'en ont pas. Mais il y a quelque chose, il y a la rapporteuse de l'ONU, la Francesca Albanese, qui est la rapporteuse de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires occupés en Palestine, et qui raconte quand elle visite les camps de réfugiés, quand elle visite les Palestiniens, ce qui la frappe toujours. Elle ne comprend pas comment ces Palestiniens peuvent encore avoir de la place pour être généreux et pour être tout simplement tendre. Et je pense que s'il y a une chose qu'on m'a transmise, c'était ça. Et je ne sais pas si ça vient du fait que la Palestine a toujours été un pays traversé par des peuples, des empires, et comme je le dis souvent, en fait, mon histoire comme palestinienne ne m'appartient pas. En fait, elle ne m'appartient pas à moi seule. C'est une histoire que je partage avec des milliards, veux pas qu'on soit croyant ou non. Mm-hmm. Moi, je les vois, les pèlerins, quand je vais à Jérusalem. Je vois leurs larmes, je vois leurs émotions, je vois ce que ça veut dire pour eux. On peut appeler ça mythe, on peut appeler ça légende, on peut appeler ça brainwashing, comme vous voulez, mais les sentiments sont vrais. On a toujours eu, comme Palestiniens, à être avec les autres et accepter que cette terre-là leur appartient aussi d'une certaine manière. Mmh. Et ça fait qu'il y a peut-être un rapport à l'autre qui se développe à partir de ça. Là, je parle un peu comme une anthropologue. Mais pour aller... Mais de manière plus simple, tout ce que je sais, c'est que moi, dans ma famille, on a toujours été... entouré, on n'avait pas de stabilité, mais on avait une stabilité qui était celle des rapports familiaux, de l'amour familial. Et j'avais toujours l'impression d'être protégée sur ce plan-là, qu'il y avait toujours de l'amour autour de moi. Et même dans le camp, en fait, mes souvenirs du camp, parce qu'on allait au camp à tous les étés, c'était là. En fait, on était à Dubaï, on était comme des immigrants. On était moi, j'étais là pour l'année scolaire, le temps que mon père travaillait là. On vivait sur le visa de travail de mon père. On n'avait aucun statut réel à Dubaï. Et donc, tout le monde rentrait dès la fin de l'école, tout le monde rentrait chez eux. Et chez nous, c'était le camp de réfugiés. Et moi, mes souvenirs du camp de réfugiés à Beyrouth sont des beaux souvenirs. J'ai pas de souvenirs de laideur, j'ai des souvenirs de beauté, de tendresse. C'est seulement, évidemment, quand j'ai commencé à grandir et à retourner au camp dans mon adolescence, après la guerre civile au Liban, c'est là où j'ai vu la laideur. Mais c'était resté quand même en moi, cette beauté fondamentale, profondément humaine. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, c'est un peu mon bouclier. Il y a quelque part quelque chose que je sais, personne ne peut toucher, et c'est cet élément-là. Personne ne peut le briser, vraiment. Et je pense que c'est le lieu à partir duquel j'écris aussi, et c'est le lieu à partir duquel j'imagine, ou je tente d'imaginer mes romans. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais...
Oh non, mais ça répond, parce que ça, en fait, ça répond... En partie, déjà, ça explique un de tes romans que je suis comme, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut écrire un truc pareil? Ton troisième roman, Je suis Ariel Sharon. C'est un roman que tu as écrit, bon, pour les gens qui connaissent pas l'histoire, Ariel Sharon, ancien premier ministre israélien, qui est tombé dans le coma en 2006, qui est resté dans le coma jusqu'en 2014. Et toi, comme... auteur palestinienne, comme romancière palestinienne, tu as dit, moi, ce que j'ai envie de faire avec mon temps et mon énergie créative, c'est imaginer ce qui se passe dans la tête d'Ariel Sharon pendant qu'il est dans le coma, d'en faire un roman écrit avec la voix des femmes qui l'ont aimé dans sa vie.
Oui.
est pour peindre à la fois l'humanité de la personne et aussi ses monstres intérieurs, tu as décidé d'aller faire ça. Je pense que ça dit quand on dit l'empathie radicale, l'humanité comme défi, mon Dieu Seigneur, comment est-ce que... Je comprends avec l'explication que tu as déjà donnée, mais quand même, explique-moi encore.
En fait, je ne sais pas plus que toi. Hein? Je pense que... Parfois, je me demande, justement, il y a des passages que je relis et moi-même, j'ai peur. Je me dis, comment j'ai fait pour écrire ça? Mais la vérité, j'aime beaucoup l'idée de revenir à comme une part de nous qui est une part d'innocence, une part de naïveté, peut-être une part de notre enfance. Mm. Et je trouve que ça m'ouvre beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que je me dis, si je pose la question de manière très naïve, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Ariel Sharon devienne Ariel Sharon et il se permet de commettre toutes ces atrocités et il dort très bien la nuit en plus. Comment se fait-il? Je ne comprends pas. Et c'est vraiment d'un lieu d'incompréhension, véritable incompréhension que j'ai tenté de m'expliquer la chose. Mais je me suis donné des astuces parce que ça aurait été impossible de lui parler directement à Ariel Sharon.
Oui.
Et c'est pourquoi je me suis protégée un petit peu, je suis allée chercher l'aide des femmes. Parce que je me suis dit, moi je ne peux pas comprendre un meurtrier vraiment, je ne peux pas comprendre cette violence-là. Mais je peux comprendre une femme qui, malgré toutes les failles de son fils ou de son mari, ne peut s'empêcher de l'aimer. Ne peut s'empêcher de justifier l'injustifiable. On en connaît tous des femmes comme ça, on se dit, mais comment elle fait pour être avec lui? Pourquoi elle ne le quitte pas? Pourquoi elle accepte ça? On sait que ça existe. Et je me suis dit, ça serait trop facile de faire le procès de Ariel Sharon. Je vais y aller par détour. Et tu sais ce qui est drôle, Émilie, c'est que ce roman-là, je l'ai écrit il y a maintenant quasiment 6 ans.
Mmh.
Et ce roman-là, après le 7 octobre, il m'a en quelque sorte sauvée.
Ah oui. Pourquoi ?
Parce que quand ça a éclaté, moi j'étais en France, et j'étais en France pour un événement à l'Institut du monde arabe. Mon événement a été annulé. Tout à coup, je me suis fait vraiment solliciter beaucoup, beaucoup par les médias.
Mmh.
Et le discours à l'époque, c'était les Palestiniens sont des animaux, les Palestiniens sont des barbares.
Mm-hmm.
Et partout comme ça, c'était ça le discours. Et le discours, c'était comment hostile. Et le discours, c'était allons-y, feu vert, vous avez carte blanche, faites tout ce que vous voulez et ils sont moins qu'humains. Et moi, j'étais face à ce discours-là et tout ce que les gens voulaient, c'est que je vienne au micro et que je m'excuse au nom de tous les Palestiniens d'exister.
Mm-hmm.
Mais quand j'arrivais avec le roman qui s'appelait « Je suis Ariel Sharon », du coup, leur discours ne fonctionnait pas.
Mm.
Ils ne pouvaient pas me présenter comme la barbare, l'antisémite, la je ne sais quoi. Parce que je leur disais, moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Je suis Ariel Sharon ». Est-ce que vous êtes capable pour une seconde de dire « je suis un enfant palestinien
mm. »
Et là, ça leur clouait le bec. Mm. Et donc, évidemment, je ne le disais pas de manière aussi directe là, mais c'était comme ça. Et je me rendais compte que le roman m'a permis de vraiment de contourner tous les discours prêts à mâcher que tout le monde avait par rapport aux Palestiniens, par rapport à Hamas, par rapport à tout. Donc, toujours la question, est-ce que vous condamnez, vous condamnez pas? Et donc, ça m'a vraiment, le roman m'a beaucoup aidée. Et c'est là où on se rend compte que parfois, la littérature, c'est pas si inutile que ça.
Ah oh non, mais il y a personne qui a dit ça. Mais je suis juste bouche bée de... Moi, j'ai rien à dire, en fait. J'ai rien à dire.
Ça m'étonne, Émilie.
Non, mais c'est parce que c'est trop fort, en fait. C'est trop fort ce que tu viens de dire.
Oui, quand on me dit comment vous arrivez à humaniser Ariel Sharon, je leur dis, mais on n'a pas la même définition de l'humanité. Parce que si dans vos têtes, humaniser, c'est justement quelque chose de rendre plus positif, plus lumineux ou accepter, ou, c'est pas ça. Pour moi, l'humain, être humain, c'est être à la fois une créature de l'ombre et une créature de lumière. C'est, l'humain est un grand prédateur, un grand destructeur et un grand créateur en même temps. Donc pour moi, c'est ça, humaniser. Humaniser, c'est accepter les deux parts de nous. Et quand on le pense de cette façon-là, on sort du côté simplement moral de la chose. Est-ce que tu lui donnes un pass? Est-ce que tu justifies l'injustifiable? Non, je ne suis pas dans un jugement moral. Je regarde qu'est-ce que c'est être humain. Et ce que c'est être humain, ce n'est pas toujours beau. Ça, il faut le savoir.
Mm-hmm. Mais au-delà du regard sur l'autre, c'est aussi peut-être donner de la place à sa propre colère mm-hmm. et son propre deuil, en fait.
Tout à fait.
C'est la seule manière, en fait.
Oui, oui, oui. Et je pense que ça dépend aussi de ce qu'on nous avons comme outils pour canaliser cette colère-là. Moi, j'ai beaucoup d'outils. Je me considère privilégiée. En fait, j'ai beaucoup d'endroits où canaliser cette colère-là. J'ai l'écriture, j'ai quand même une voix, j'ai une certaine plateforme. D'autres ne sont, en fait, les enfants à Gaza qui, en fait, personne ne les voit. Pas vraiment. Personne ne les entend. Moi, j'ai la capacité de m'exprimer, j'ai la capacité d'écrire, j'ai la capacité même d'inventer des mondes parallèles si je le veux. Et j'ai la capacité de m'asseoir au piano. Donc, j'ai beaucoup d'endroits où je peux placer ma colère et la transformer. Mais je ne peux jamais exiger de quelqu'un à qui on a enlevé toute possibilité de s'exprimer, d'être zen. Non. Et on ne peut pas demander... On ne peut pas demander à un enfant de Gaza, viens donc écrire un roman qui s'appelle « Je suis Netanyahou ». Jamais, c'est cruel.
Oui, absolument.
Donc, j'ai des possibilités que d'autres n'en ont pas et ça vient avec des responsabilités. C'est comme ça que je le prends.
Yara, normalement, en milieu d'émission, on a un segment qu'on appelle « Bien noté », qui est une manière de souligner certaines choses qu'on croit que les auditeurs, les auditrices devraient garder en tête ce mois-ci. Il y a dans le livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer » un extrait qui, pour moi, fait l'office de « Bien noté » parfait. Je crois que cet extrait-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, cette semaine en particulier, ont besoin de prendre en note. Je te cède la parole.
Beaucoup d'alliés confondent l'amour et la solidarité, la compassion et la solidarité, la pitié et la solidarité. J'ai rencontré des alliés du monde entier qui portent dans leur cœur la cause des Palestiniens. Autant cet élan de sympathie et de colère contre l'injustice me console, autant il me fait peur. Certains s'engagent dans la lutte par conviction religieuse et veulent faire de moi une croyante. D'autres veulent satisfaire un besoin de rébellion et veulent que je me rebelle pour tout et pour rien. D'autres encore cherchent une souffrante à guérir et mon sourire facile les perturbe. Puis, il y a ceux qui croient avoir des leçons à donner. Ils me racontent l'histoire de mon propre peuple, m'expliquent la bonne façon de résister, quel terme utiliser, quelle pétition signer. Ils me montrent le chemin à suivre. Je les déçois souvent, ces alliés. Je ne joue pas assez bien mon rôle. Ma colère n'est jamais assez colérique, mon engagement jamais assez engagé. Le chemin de la fiction que j'ai choisi n'est pas assez vrai à leurs yeux. Si je prononce le mot Israël de temps en autre, on me fait des reproches, alors que je dois passer par Israël chaque année pour visiter la famille et les amis en Palestine. Les pires sont ceux qui profitent de la cause palestinienne pour étaler leur propre racisme. Dès le moment où je révèle mon identité, ils vomissent des injures antisémites, croyant avoir devant eux un complice. Et je suis obligée non seulement de leur clouer le bec, mais de laver de leur souillure mon corps, mon nom et mon combat pour la liberté. J'ai vécu de grandes ruptures avec des alliés une fois qu'ils ont constaté que je n'avais besoin ni de leur aide, ni de leur amour. J'ai perdu beaucoup d'alliés dès que je leur proposais une relation qui ne dépendait pas de leur bienveillance. Rares sont ceux qui entretiennent la possibilité que ça soit moi, mon histoire, mes expériences, ma force qui leur viennent plutôt en secours. Que j'aurais peut-être quelque chose de plus précieux à leur offrir. L'amitié. Ils ne savent pas que faire de cette amitié qui fait chavirer la relation. Ils se croyaient mes sauveurs, mes guides, et moi, leur cas de bien-être social ou bien leur billet vers la rédemption. Pourtant, l'amitié est la plus noble des relations humaines, nous dit Arendt. Une relation qu'elle place bien au-delà des liens familiaux et des liens de passion. La solidarité et les alliances qu'elle engendre peuvent éventuellement se transformer en amitié. Mais l'amitié, si elle dépendait uniquement de la solidarité, ne survivrait pas longtemps. Les intérêts communs divergent et les élans de solidarité qui portent les révolutions ne se traduisent pas nécessairement en amitié après la victoire. L'amitié est belle car elle ne doit son existence ni à la passion ni aux idéaux partagés aussi nobles ou ardents soient-ils. L'erreur que l'on fait en tant que personne racisée, c'est de prendre nos alliés pour des amis et eux de prendre leurs sentiments d'empathie et leur passion pour de la solidarité. C'est injuste pour eux et injuste pour nous. Faut-il alors rester dans un entre-soi, créer des safe spaces où tout le monde se ressemble et garder les alliés à distance? J'ai horreur des chambres d'écho. Écho après écho de souffrance, écho après écho de colère, toujours les mêmes références, les mêmes visages, les mêmes certitudes. J'évite les groupes fermés, je me méfie des zones de confort quand elles sont trop confortables. Pour construire un monde plus juste, il faut rassembler nos différences, quitte à confondre de temps à autre l'amour, l'alliance et l'amitié. Je préfère cette confusion au faux consensus. C'est pourquoi j'aime tant lire des écrivains au parcours, histoire, langue et imaginaire différents des miens. Je comprends pourquoi Mahmoud Darwish détestait l'étiquette de « poète national des Palestiniens » alors que résonnait en lui la voix de l'homme rouge. Ici, nous naquîmes entre feu et eau, et sous peu nous renaîtrons dans les nuages au bord du littoral azuré. Lui qui écrivait à l'assassin israélien, « Si tu avais laissé 30 jours au fœtus, les possibilités auraient été autres. L'occupation finie, le nouveau-né aurait oublié le temps de siège. Il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme, aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie et ils auraient pu s'aimer, donner jour à une fille et elle serait juive de naissance. » Je cherche ce vertige qui s'empare de moi dès que je fais un pas vers l'autre. J'avance vers la mer, le courant me tire et je chavire. Chers alliés, n'abandonnez pas la cause, mais gardez une place pour le chavirement. Voilà.
Bien noté, Yara. Bien noté.
Merci.
Oh my God.
Ce chapitre, je l'aime beaucoup. Hein. Je pense que c'est le chapitre dans lequel je dis beaucoup de... En tout cas, il y a des gens bien ciblés dans ce chapitre.
On va commencer par ça. Yara, pourquoi est-ce que c'est un chapitre que tu es particulièrement contente d'avoir écrit?
C'est peut-être le chapitre le plus... Je ne veux pas dire le plus honnête, parce que tous les autres chapitres sont honnêtes. Mais c'est vraiment des expériences qui sont très, très proches de moi. Et ici au Québec, et je ne mentirai pas, je pensais à des gens très, très précis en écrivant ce chapitre-là. Et je pense que c'était important parce que la relation avec les alliés, je pense, reste une relation taboue d'une certaine manière, qui est souvent emmitouflée dans des bons sentiments. Et les gens ne veulent pas, en fait, se blesser l'un l'autre. Tu veux pas dire à quelqu'un qui veut sincèrement t'aider, ne m'aide pas. Et en même temps, t'as pas envie d'être le projet de quelqu'un. Et souvent, il y a des émotions très, très complexes qui entrent dans ces relations-là. Des rapports de pouvoir, des rapports de culpabilité, des rapports d'amour, beaucoup de confusion dans les émotions. Et j'avais vraiment envie de faire un petit peu le ménage de ça et à partir de mes propres expériences et être le plus honnête possible, peut-être envoyer un petit message bien noté, comme tu l'as si bien dit. Bien à noter même.
Oh non, mais c'est incroyable. Depuis quelques mois, ce que je vois beaucoup, c'est en fait les alliés qui savent pas quoi faire avec leurs émotions, en fait, et puis qui se les pitchent les uns sur les autres, peut-être encore plus que sur les Palestiniens qui ne voient pas à Montréal, souvent. Mais les gens sont dans une détresse, dans une colère, peut-être souvent aussi qu'ils vont projeter sur une personne qui est tout aussi démunie qu'eux-mêmes là-dedans. Et je me gratte la tête depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, avec la plateforme que j'ai moi-même à savoir, OK, mais comment faire pour que les gens arrêtent de paniquer pour rien, sans non plus décourager les gens de regarder ce qui se passe à Gaza, mais je vais dire cette semaine à Rafah plus particulièrement. Et c'est cet équilibre-là entre être honnête et aider les gens à grandir, à évoluer là-dedans, tout en ne faisant pas, ne triggerant pas, en bon français, une réaction de « ah ben là, c'est comme ça, je joue plus », essentiellement. Là. Mm-hmm. C'est un équilibre qui est pas facile. Je trouve que tu le fais bien dans ce chapitre-là, mais dans ta vie personnelle, tu arrives aussi à le faire, à dire ce que tu as à dire sans... Et à garder les gens?
Je suis un peu plus en retrait ces jours-ci.
Maintenant, ces temps-ci,
oui. Oui. Mais je pense que ce qui se passe à Gaza est même me dépasse. Il me dépasse parce que je crois que le choc est sincère dans la réaction des gouvernements occidentaux. Mmh. Je pense qu'il y a tout un pan de la population au Québec, au Canada, dans les pays européens, qui pour la première fois sont en train de voir ce que nous, on voit depuis 75 ans, mm-hmm. qui est le mensonge. Le mensonge de ce que c'est être un État de droit, un État soi-disant démocratique, un État civilisé, toute l'infrastructure de la loi internationale. En fait, tout ce qu'on pensait que ces États ont amené au monde, et on voit, en fait, le mensonge. Mm. Et je pense que ça met mes compatriotes canadiens, québécois, dans une position très difficile, parce que je pense qu'ils voient qu'ils sont complices, qu'ils le veuillent ou pas. Et d'ailleurs, moi aussi. C'est-à-dire que quand on voit que le Canada envoie des outils militaires, de l'équipement militaire en Israël, mais c'est avec notre argent qu'ils font ça. Mm-hmm. Donc, veut pas, on est complice. Et donc, les gens sont dans un questionnement qui, à la limite, ne me concerne même pas. C'est par rapport à qui nous sommes. Sommes-nous vraiment le peuple civilisé, le peuple démocratique, le peuple de la loi internationale? Eh ben non. Évidemment, on a tendance on a envie de leur dire, mais le mot me vient en arabe, bakir, c'est-à-dire que et pas trop tôt. Parce qu'il y a eu Rwanda avant ça, il y a eu plein de génocides avant ça. Mm-hmm. Et ça, c'est l'autre chose que je dis souvent, c'est-à-dire que moi, je refuse de jouer la carte de l'exceptionnalisme. Je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est une série de violences génocidaires que d'autres peuples ont subi et ça va continuer, on ne sera pas les derniers. Donc, on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Et je pense pour la première fois, les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous représentons? Qui sommes-nous? Et alors que nous, on a toujours été confrontés à ces questions-là. Donc, dans ces questionnements, moi, mon rôle, en fait, j'ai pas vraiment... Je considère que ça, c'est un travail qui leur appartient. Moi, j'ai mon propre travail à faire par rapport à mes responsabilités citoyennes, ici comme là-bas. Mais c'est certain que parfois, il y a un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'ai été interviewée par un journaliste qui en fait avait vécu la, en fait était reporter quand il y a eu la le massacre de Sabra et Shatila à Beyrouth, dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila. Il m'interviewait et moi je racontais la chose et lui en fait il a eu une crise de panique devant moi. Il a vraiment eu une crise de panique devant moi juste à l'idée de revenir sur ce qu'il avait, ce dont il avait été témoin. Et ça m'avait frappée parce que même je me suis dit, pourquoi moi je ne suis pas en train d'avoir une crise de panique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai été désensibilisée? Est-ce que parce que c'est quelque chose qui m'appartient tellement, qui fait tellement partie de moi, que j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à le nommer? Et je ne sais jamais quoi faire dans ces instants-là. Est-ce que c'est à moi de le consoler ou est-ce que c'est à lui de me consoler?
C'est quoi?
Vous voyez, c'est... Mais je pense que c'est un peu des deux. Mm-hmm. On vit quelque chose comme ça en ce moment.
Oui.
J'essaye de ne pas mépriser ni de sous-estimer le désarroi des gens qui voient pour la première fois ce que leur gouvernement font. Mais en même temps, et je ne peux pas, en fait... investir trop mon énergie là-dedans, c'est leur travail à faire envers eux-mêmes. Parce que moi, je dois trouver le moyen de continuer à respirer et à espérer quelque chose de mieux pour mon peuple. Je peux pas aussi me préoccuper du désarroi des autres en ce moment. Je peux peut-être le respecter, mais je ne peux pas être là pour gérer ça.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Oui.
Puis, tu sais, le livre dont l'extrait est tiré a été coécrit avec Rodney Saint-Éloi, qui est bien sûr, qui est haïtien, et je sens dans l'échange, si les gens vont lire le livre au complet, que, en fait, on parle de contextes différents, mais il y a aussi cette, je vais pas dire nécessairement habitude, mais disons, ressource culturelle à gérer avec l'horreur dont l'humanité est capable, qui existe aussi dans la culture haïtienne, dans la culture palestinienne, dans les cultures autochtones. Ici au Canada, les gens ont souvent des outils pour gérer avec le spectre du génocide. C'est des choses qui sont certainement partagées, mais ce que j'allais dire, c'est que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que en fait, gérer ses émotions face à l'horreur, c'est l'habitude d'une vie, c'est des ressources d'une vie, c'est des outils qu'on développe au courant d'une vie. Et pour les gens qui n'ont jamais eu à les développer, ce qu'on voit chez les gens, c'est un peu aussi justement faire face à avoir à soulever une masse pour laquelle on n'a jamais développé les muscles, en fait. C'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression.
Oui. Et moi, et je le redis, j'ai des ressources à part mes ressources culturelles et tout ça. J'ai les mots, j'ai les mots. Moi, je peux en fait m'exprimer. Je peux construire un discours. Je sais que si quand je parle, il y a des gens qui écoutent. C'est déjà immense. C'est déjà immense. Ça pour moi, c'est très important. Cela étant dit, je dois dire que c'est l'une de mes grandes consolations pendant les 4 derniers mois, c'est la solidarité internationale.
Ouais, hein.
Oui, en fait, c'est important pour moi. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si ça se passerait complètement dans le silence. Donc, j'étais à Francfort quand ils ont censuré Adani Achibli, l'écrivaine palestinienne. Et j'étais là et je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que j'étais à Francfort. Comme éditrice de Mémoire d'encrier, et voilà que l'une de mes compatriotes est annulée.
C'était quand ça exactement?
C'était en octobre. Donc l'écrivaine, oui, elle devait recevoir un prix littéraire dans la foire du livre de Francfort, qui est l'une des grandes foires du milieu littéraire, et ils ont annulé le prix. Donc la seule chose qui m'a consolée, c'est qu'il y avait un groupe d'éditeurs, dont plusieurs éditeurs québécois, maisons d'édition québécoises, qui sont venus vers moi, ils avaient des affiches, on a mis des affiches sur nos kiosques pour dénoncer ça, et on a fait une rencontre, on était une dizaine d'éditeurs, en fait, de différents pays du monde, et ce jour-là, on a constitué un groupe qui s'appelle Publishers for Palestine. Et aujourd'hui, le groupe regroupe 400 éditeurs du monde entier. Et ils sont actifs et des maisons d'édition canadiennes sont très, très actives là-dedans, même plus actives que moi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il faut pas minimiser ça. Il y a des gens qui s'activent et qui s'engagent et ça me donne de l'espoir. Mais à la fin, chacun doit vivre avec ce trauma-là, ce traumatisme-là, et à partir de sa propre histoire. Donc moi, mon regard n'est pas le regard même de ma compatriote québécoise qui, pour la première fois, voit qu'on n'est pas seulement le pays des casques blancs. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, c'est ça. Et c'est pas ta responsabilité non plus. C'est chacun a... On est ensemble, mais en même temps, chacun a à gérer ce qu'il a géré de son côté et puis et ne pas te faire porter le fardeau de... Comme tu disais tout à l'heure, d'être la personne qui va les consoler, eux, quand même.
Oui. Oui. Parfois, j'ai envie de leur dire, mais vous voulez m'aider, mais lisez des romans palestiniens, ça m'aiderait.
Oui, oui, oui. Mais on comprend aussi le retrait en partie, du moins des dernières semaines, des derniers mois. En terminant, je vais peut-être juste nommer l'éléphant dans la pièce. Normalement, c'est un podcast, on fait notamment une critique de ce qui se passe dans les médias canadiens. On a parlé d'absolument tout ensemble sur les médias canadiens. Puis, je tenais à dire en terminant que, en tout cas, moi, je vais parler pour moi-même. J'ai pas l'énergie cette semaine de critiquer les médias canadiens. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre en grève, en fait. Et puis, je pense que je fais la grève de la critique des médias canadiens pour cette semaine et que j'avais envie de faire cette grève-là avec toi parce que au-delà de la critique pour dire qu'on est déçu ou quoi que ce soit, des fois, la meilleure façon d'envoyer un message, c'est de refuser de dépenser son énergie, son temps d'antenne, et certainement ton temps à toi, Yara. J'avais pas envie de le passer là-dessus. Je pense qu'on avait des choses beaucoup plus importantes à se dire ensemble. Et c'est donc un choix, je pense, très, très, très conscient qui a été fait à ce niveau-là. Et c'est ça. Des fois, le silence ou le refus est la meilleure critique qu'on peut faire.
Oui, et en fait, je t'en remercie parce que la vérité, moi, j'ai arrêté de... Je regarde plus. Mm-hmm. Je regarde plus les médias canadiens. En fait, d'abord, ça ne m'informe pas. Mm. Et ce qui ne se dit pas est parfois plus violent de ce qui se dit. Donc, moi, les euphémismes, je n'en peux plus. Mais je me dis, une chance qu'il y a ces journalistes citoyens à Gaza qui risquent leur vie à tous les jours. Et oui. En fait, je vis avec eux tous les jours. On connaît leur nom, leur prénom. Et parfois, quand ils ne postent pas, moi, j'ai des cauchemars parce que j'ai peur qu'ils soient morts, j'ai peur qu'ils soient... Et si je suis avec eux, quand je te dis je suis dans un temps parallèle, je suis vraiment avec eux. Et ça faisait très longtemps que je n'écoutais pas les médias en arabe. Et maintenant, en fait, pour te dire la vérité, mon univers médiatique est entièrement arabe. Mm. Donc, je suis dans un autre lieu, dans un autre temps. Je ne peux même pas te dire... Qu'est-ce que le dernier chroniqueur a fait au Corinne? Parce que je sais que je ne suis pas là, je ne suis pas dans leur esprit, je ne suis pas dans leur imaginaire et ma souffrance n'est pas du tout dans leur imaginaire. Mm. Donc, je suis ailleurs. Je suis ailleurs et j'attends le jour où quelqu'un aura le courage de, comme tu dis, de dire l'éléphant dans la chambre et de dire tout ce qui ne se dit pas, que ça fait partie de la violence de la chose. Mais nous, on est habitués, les Palestiniens. Mmh. C'est-à-dire que sur ce silence, sur ça, on est habitués. Mais aujourd'hui, là, c'est arrivé à un tel degré que, en fait, je n'ai plus l'énergie. Même avant, je pouvais lire, je pouvais écouter et faire comme une espèce d'analyse. Je dis, bon, voilà, oui. C'est le discours, je comprends très bien. Mais maintenant, je n'ai plus cette énergie-là. Et je suis avec mes compatriotes, je suis avec Bissan, je suis avec Selma, je suis avec Mortez, je suis avec Anas, je suis avec tous ces gens-là qui vivent le génocide à tous les jours. Ils trouvent le temps de prendre le temps de rapporter et de nous dire ce qui se passe. Et c'est grâce à eux, si jamais, Israël est condamné pour ce qu'ils font, ça sera grâce à ces gens-là, ça sera pas grâce aux médias occidentaux. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à faire sur qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, après Gaza, vraiment.
C'est tout pour Détour. Merci, merci énormément, Yara, d'avoir été là cette semaine avec nous. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, qui est tout, je l'avoue, un peu spécial cette semaine. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Bon, Yara, les gens, on a déjà dit que tu es un peu en retrait. Où est-ce que les gens peuvent trouver tes ouvrages, en fait? ou ce que tu publies, ce que tu crées dans l'espace public encore et toujours?
Ah, mais dans toutes les bonnes librairies et dans votre librairie indépendante.
Voilà.
Donc, je vous encourage d'aller lire des romans.
Allez lire Yara, allez lire les auteurs palestiniens. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout au Canada. S'il n'y a pas beaucoup de librairies francophones pour lire les livres de Yara, ils sont en traduction aussi. Et bien sûr, ils sont en livre numérique aussi. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux. Parlez-en à vos proches.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.